Merci beaucoup Kevin, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis heureux de partager ce moment avec vous, un privilège que d'ouvrir la parole de Dieu ensemble. Et je vous invite, j'espère que vous avez accès à une Bible, peut-être par voie électronique, sinon sur papier. Je vous invite à commencer par un texte d'arrière-plan théologique dans l'Épître aux Romains. Je vais juste lire quelques versets dans Romains 10. Et puis nous verrons le texte principal qui est Actes chapitre 4 qui va diriger nos réflexions. Romains chapitre 10, et je vais commencer à lire au verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. En effet, c'est avec le cœur que l'on croit et parvient à la justice, et c'est avec la bouche que l'on affirme une conviction et parvient au salut, comme dit l'Écriture, celui qui croit en lui ne sera pas couvert de honte. Ainsi, il n'y a aucune différence entre le juif et le non-juif, puisqu'ils ont tous le même Seigneur, qui se montre généreux pour tous ceux qui font appel à lui. En effet, toute personne qui fera appel au nom du Seigneur sera sauvée. Mais comment donc feront-ils appel à celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler de lui si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on si personne n'est envoyé, comme il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles? Actes chapitre 4. Actes chapitre 4, le premier verset. Pierre et Jean parlaient encore au peuple quand survinrent les prêtres, le commandement des gardes du temple et les sadducéens. Ils étaient excédés parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils les arrêtèrent et comme c'était déjà le soir, ils les mirent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, ce qui porta le nombre des hommes à 5000 environ. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, se rassemblèrent à Jérusalem, avec le grand prêtre Anne, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la famille du grand prêtre. Ils firent comparaître Pierre et Jean au milieu d'eux et leur demandèrent « Par quelle puissance ou quel nom avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit « Chef du peuple et ancien d'Israël, on nous interroge aujourd'hui sur un bienfait accordé à un infirme, afin que nous disions comment il a été guéri. Sachez le bien, vous tous, et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, celui que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité. Oui, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui construisez et qui est devenue la pierre angulaire. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Et il les reconnaissait pour avoir été avec Jésus. Mais comme il voyait debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin, puis ils délibérèrent entre eux en disant Que faire à ces hommes ? En effet, ils ont accompli un signe miraculeux évident. C'est clair pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que cela ne se propage pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. Alors, ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner. De parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Est-il juste devant Dieu de vous écouter, vous, plutôt que Dieu ? Jugez-en vous-même. Quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. » Les chefs du peuple leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent. À cause du peuple, ils ne trouvaient pas le moyen de les punir, parce que tous attribuaient à Dieu la gloire de ce qui était arrivé. En effet, l'homme qui avait bénéficié de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Une fois relâchés, Pierre et Jean allèrent trouver les leurs et racontèrent tout ce que les chefs des prêtres et les anciens leur avaient dit. Après les avoir écoutés, ils s'adressèrent tous ensemble à Dieu en disant « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation parmi les nations et ces préoccupations dépourvues de sens parmi les peuples ? Les rois de la terre se sont soulevés et les chefs se sont ligués ensemble contre le Seigneur et contre celui qu'il a désigné par onction. Il est bien vrai qu'Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et les peuples d'Israël contre ton saint serviteur Jésus que tu as consacré par onction. Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Déploie ta puissance pour qu'il se produise des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. » Quand ils eurent prié, l'endroit où ils étaient rassemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Joseph, celui que les apôtres surnommaient Barnabas, ce qui signifie « fils d'encouragement », un lévite originaire de Chypre, vendit un champ qu'il possédait, apporta l'argent et le déposa aux pieds des apôtres. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Quel est votre film préféré ? Quel est le meilleur fromage de France ? Est-ce que c'est plus intéressant de regarder un match de foot ou un match de rugby ? Vous êtes prêts pour le débat ? Qu'est-ce qui vous passionne ? Qu'est-ce qui vous prend par les tripes ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Sur quel sujet êtes-vous intarissable ? Peut-être c'est la montagne. Peut-être c'est votre entreprise. Peut-être. J'ai un ami de la fac qui a lancé sa propre entreprise et il peut disserter longuement sur la qualité des produits qu'il vend. J'en connais, qui sont intarissables sur le sujet de leurs enfants. Vous savez, quand on est passionné par quelque chose, quand on aime, eh bien, on peut en parler. On s'engage, on parle facilement d'une passion. On se mouille en quelque sorte. Et quand on est saisi par une passion, ça peut être une activité, ça peut être un sujet, eh bien, on ne compte pas vraiment le temps que ça nous coûte. On considère pas que ça nous coûte quelque chose parce que c'est un plaisir, c'est une passion. C'est pas coûteux. Ça me prend du temps, de l'énergie, de l'argent, mais ce n'est pas coûteux parce que j'aime ça. C'est une passion de mon cœur. Et on ne se pose pas la question, où et quand vais-je en parler ? On ne se pose pas la question. Il y a 2000 ans, un petit groupe d'hommes ont été saisis par quelque chose. On peut dire que c'est l'Évangile qui les a saisis. C'est un message de bonheur éternel. C'est pour cela, c'est par cela qu'ils ont été saisis. On peut dire que c'est le Saint-Esprit qui s'est saisi d'eux, cet esprit manifesté à la Pentecôte. On peut dire que Dieu lui-même les a saisis. C'est vrai. Mais c'est, je pense, le plus précis que dire qu'ils ont été saisis par Jésus-Christ. Et ils sont devenus intarissables. Intarissables à son sujet. Au tout début du livre des Actes, Jésus promet à ses disciples cette puissance du Saint-Esprit afin qu'ils soient des témoins. Vous serez mes témoins. Et dans Actes chapitre 4, c'est une des expressions de ce que cela veut dire, de comment cet esprit a créé en eux cette capacité, ce courage, cette passion. Nous sommes dans ce chapitre 4 toujours à la suite de cette guérison de cet homme boiteux, celui qui se tenait à la belle porte, la porte qu'on appelait belle, chapitre 3. Je vous propose un petit résumé du chapitre 4. Convaincus par la résurrection du Christ, Pierre et Jean refusent de se taire. Le salut se trouve en Jésus seul. Et donc les disciples prient Dieu pour le courage nécessaire de l'annoncer. Et ils vivent la solidarité. Nous verrons ça en quatre parties. Tac, voilà. Je vais vous laisser ça devant vous. Un salut unique, une priorité absolue, une prière assurée et une solidarité concrète. Une solidarité concrète. On va commencer donc avec les versets 1 à 12. Chapitre 4, verset 2. Ils étaient excédés, les responsables du peuple, les chefs religieux, parce que les apôtres enseignaient le peuple et annonçaient quoi ? Ils annonçaient la résurrection des morts dans la personne de Jésus. La résurrection des morts dans la personne de Jésus. Ils annonçaient qu'on peut échapper à la mort, qu'il y aurait une vie après la mort, ou pour être plus précis et pour citer Nicolas Thomas Wright, une vie après la vie après la mort. Parce que la résurrection, c'est ça, c'est pas juste une vie après la mort, c'est une vraie vie après la vie après la mort. On peut connaître une vie ressuscitée, on peut connaître un monde parfait à venir. Y aurait-il un autre sujet qui mériterait une telle passion ? Foot, rugby, film, enfant. Ésaïe a dit que la mort, c'est un voile qui couvre tous les peuples. C'est pas vrai, ça ? La mort, c'est un voile qui couvre tous les peuples. Luc Ferry est philosophe, ancien ministre de l'Éducation nationale. Il a écrit dans un de ses bouquins que la question philosophique, la question la plus importante, c'est comment peut-on échapper à la mort ? Ou, au moins, comment échapper à la peur de la mort ? Voici la question devant l'être humain. Alors, à l'Assomption du Baptiste, nous sommes tous, vous êtes tous, jeunes, beaux, fringants. La mort, c'est très loin. Eh bien, n'oublions pas la mort. Ne soyons pas dans l'insouciance naïve. La mort, c'est un des derniers tabous de notre société. On n'en parle pas, on utilise des euphémismes, on essaie peut-être de ne pas y penser trop, surtout pas à 4 heures du matin. La Bible nous annonce qu'on peut guérir de cette maladie qui nous tue tous. Ça s'appelle le péché, le mal, l'injustice. La Bible nous annonce qu'on peut échapper au jugement qu'on mérite tous, la condamnation divine d'un Dieu saint et parfait. La Bible nous annonce qu'on peut connaître une vie éternelle dans un monde où il n'y aura plus de souffrance ni larmes et plus de mort. Et toutes ces affirmations trouvent leur concrétisation dans l'histoire humaine et de notre planète, dans la résurrection de Jésus-Christ. Et donc, il y a en Jésus la résurrection des morts. Il y a une vie après la vie après la mort. Et elle se trouve en Jésus-Christ. Un salut unique, ce n'est qu'en lui qu'on le trouve. Jésus avait promis au chapitre 1 que le Saint-Esprit viendrait pour faire d'eux des témoins. Et ici, nous voyons que l'apôtre Pierre est rempli du Saint-Esprit et donc il peut parler avec courage et clarté. Oui, il y a un homme qui a été guéri, bien sûr, mais c'est ce qui est important, c'est pas ça, c'est la puissance de Jésus-Christ qui est importante. Vous l'avez tué, Dieu l'a ressuscité. En fait, c'est quelque chose, c'est un refrain qu'on trouve dans ces premiers chapitres du livre des Actes. Les apôtres à Jérusalem, dans ces premières semaines, ils disent, de manière répétée, ils disent, vous l'avez tué, mais Dieu l'a ressuscité. Et donc, faites demi-tour. Croyez en lui. Voici maintenant la pierre angulaire, la pièce maîtresse, celui par qui tout tient. C'est extraordinaire ce concept d'une pierre angulaire. En fait, si vous enlevez la pierre angulaire, le bâtiment s'écroule, il n'y a plus rien. Et l'affirmation de la Bible d'un bout à l'autre, c'est que Jésus est la pierre angulaire de l'univers, la pièce maîtresse. Vous retirez Jésus, tout s'écroule, il n'y a plus rien. Et ce n'est que bon sens que de fléchir le genou devant lui. Dieu a donné. C'est pas beau ça, il y a un seul nom que Dieu a donné. Verset 12. Il n'y a aucun autre nom qui ait été donné. Dieu nous a donné un nom. Dieu nous a donné un salut. Dieu nous a donné un sauveur. C'est un don extraordinaire. Cela veut dire qu'on ne va pas pouvoir se sauver en faisant le bien. Je pense que c'est la réponse la plus répandue en France aujourd'hui. S'il faudra être sauvé, je serai sauvé en étant quelqu'un de bien, en étant respectueux des autres. Chers amis, vous pouvez être quelqu'un de bien et être perdu. Vous pouvez même aller passer votre vie dans un bidonville en Inde, aider les plus démunis de cette planète est terminé spirituellement et éternellement perdu. Vous ne pouvez pas être sauvé en obéissant à la loi de Moïse. Vous ne pouvez pas être sauvé par un autre gourou, un autre prophète, ou même, et c'est peut-être après le fait d'être quelqu'un de bien, je pense, la deuxième réponse la plus répandue en France aujourd'hui, être sauvé par une vague miséricorde divine indéfinie. Dieu me pardonnera, c'est son métier. Pierre annonce le contraire. Et nous existons, l'Association Baptiste existe, par la conviction qu'il n'y a qu'un seul sauveur. Et ce n'est pas nos bonnes œuvres, ce n'est pas une vague miséricorde divine indéfinie, mais c'est Jésus-Christ. Nous ne devons pas croire, en lisant cela, que l'apôtre Pierre était inconscient des autres religions, qu'il était ignorant de l'existence d'autres religions. Il y avait plein de religions au premier siècle. Le paganisme avec son panthéon et ses diversités, le judaïsme qui ne reconnaissait pas Jésus, des philosophies répandues très largement qui annonçaient des voies à suivre. Et Pierre dit, en connaissance de cause, il n'y a de salut en aucun autre nom. Je trouve ça intéressant aujourd'hui de regarder les religions et les philosophies de notre monde. Qu'est-ce qui est proposé? Il me semble, peut-être que quelqu'un viendra après me corriger, mais il me semble qu'aucune grande religion, ni aucune philosophie que j'ai pu croiser à notre époque, ne propose un salut qui ressemblerait dans un sens au salut qu'il y a en Jésus. Nous sauver de la mort, du mal et du jugement de Dieu. Je pense qu'il n'y a personne d'autre en fait qui le propose, tant bien même qui pourrait l'accomplir, mais qui le propose réellement. Peut-être le plus proche, c'est dans l'islam. Il y a beaucoup de concepts bibliques qu'on peut retrouver dans le Coran. Mais c'est clair dans l'islam qu'il y a un chemin pour bien vivre, les piliers, les cinq piliers. Mais à part le martyr, je ne vais pas entrer dans ce débat-là, on ne peut pas être sûr d'être sauvé. Le jugement de Dieu est inconnu d'avance. Donc non seulement le salut de Jésus-Christ est unique en tant que salut, mais même l'offre de salut en Jésus-Christ est unique en tant qu'offre. Personne d'autre n'a l'audace de vous dire « Venez à moi et vous serez en sécurité éternelle. Croyez en moi et vous n'aurez plus à avoir peur de quoi que ce soit. Ni la vie, ni la mort, ni l'avenir, ni le jugement, ni les attaques terroristes, ni la maladie, et ainsi de suite. Pas parce qu'on ne peut pas subir, et on ne subira pas, les épreuves, les tristesses, des maladies, le chômage, la mort, et j'en passe. Mais parce que, à travers toutes ces choses-là, Jésus-Christ assure une sécurité éternelle, une vie après la vie après la mort. Aucun autre système a l'audace de proposer, ne parlons pas de l'accomplir, mais de proposer un salut assuré. Un salut unique. Deuxièmement, une priorité absolue. Verset 13. « Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, car ils savaient que c'était des hommes du peuple sans instruction. Ils les reconnaissaient pour avoir été avec Jésus. » Ils veulent empêcher, les autorités veulent empêcher Pierre, Jean, les autres de parler. Et Pierre et Jean refusent. Ils ne résistent pas leur arrestation. Ils ne résistent pas le fait d'être mis en prison. Et tout disciple de Jésus est appelé à ne pas résister physiquement à ceux qui nous feraient du mal. Et nos frères et sœurs dans des pays dangereux aussi, aujourd'hui, nous bénissent lorsqu'ils ne résistent pas physiquement à ceux qui les martyrisent. Il ne faut pas résister physiquement, mais il ne faut pas non plus se taire. Parce qu'il y a une priorité absolue, c'est d'obéir à Dieu et pas aux hommes. C'est d'annoncer le message de Dieu, tant bien même que c'est interdit, que c'est face à une opposition violente. Nous ne pouvons pas, verset 20, quant à nous, nous ne pouvons pas ne pas annoncer ce que nous avons vu et entendu. C'est impossible de ne pas l'annoncer. Quel privilège, 2000 ans plus tard, d'être au bénéfice de ces générations de sœurs, de frères qui ont suivi les pas des apôtres et qui ont simplement et avec courage, quelles que soient les circonstances et quelle que soit l'opposition, annoncé Jésus-Christ. Quelles que soient les conséquences, quelle que soit la violence, ceux qui ont refusé de répondre à la violence par la violence et simplement répondu avec les paroles de l'Évangile. Chers amis, où et quand ? Ici, maintenant. La confiance des apôtres et notre confiance aujourd'hui ne doit jamais reposer dans une puissance politique ou une force physique. La force de l'Église de Jésus-Christ ne doit jamais reposer sur la force des armes. Et je crois que c'est peut-être le péché originel du protestantisme français. Le fait que l'amiral Coligny ait accepté, sous pression, il faut dire ce qui est, et ils étaient massacrés, mais de répondre avec des armes aux massacres et aux armes des ducs de Guise et autres. La confiance d'un disciple de Jésus doit toujours être et rester dans la puissance de la parole de l'Évangile, dans des mots qui communiquent le message et dans l'œuvre invisible et magnifique et glorieux du Saint-Esprit. Notre puissance, notre confiance doit restée toujours la parole et elle seule. Et Dieu soit loué, cela nous suffit. Je connais un homme qui a fait ses études d'ingénieur à l'école centrale à Paris et pendant 3 ans, tous les lundis midi, il tenait un stand au centre du campus, là où les étudiants passaient pour chercher leur courrier, pour aller à la cantine. Et il proposait des évangiles, il proposait de discuter de l'évangile avec ceux qui étaient prêts à s'arrêter 5 minutes. Et il a eu la liberté de le faire. L'administration de l'école a reconnu qu'il y a la liberté de parole, il y a la liberté d'expression dans notre pays. Mais on s'est moqué de lui, il a subi des méchancetés. Mais il savait quelle était sa priorité. Il savait qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Il savait que Jésus-Christ est roi de tout et de tous, et qu'il y a la résurrection des morts en lui. Comment les apôtres l'ont su, eux ? Comment se fait-il que ces hommes pas instruits ont eu ce courage-là ? On peut dire, et je l'ai déjà dit, que c'est la force de l'Esprit Saint. On peut aussi dire que c'est parce qu'ils ont vu Jésus-Christ pendant 3 ans, le vivre, le faire, le pratiquer. Ils ont vu ce qu'est une vie à la seule gloire de Dieu. Ils l'ont côtoyé pendant 3 ans. Et ils ont vu dans la vie et la mort de Jésus-Christ quelqu'un qui était prêt à tout donner, à répondre qu'avec des mots à la violence et à vivre dans l'obéissance à Dieu plutôt que l'obéissance des hommes. Où et quand ? Ici, maintenant. Demain, là-bas. Bien sûr, nous devons suivre les commandements bibliques et donc, par exemple, comme dit l'apôtre Paul, chercher à vivre en paix avec les hommes autant que cela dépend de nous. Si quelqu'un nous dit « arrêtez de m'embêter avec ça », on respecte, pas de souci. Mais si c'est une priorité, si Jésus-Christ s'est saisi de moi, de mon cœur, alors je devrais être aussi intarissable sur ce sujet-là, que je le suis sur mes enfants, sur mon film préféré, sur mon sport, et j'en passe. Si vous n'avez pas lu ce petit bouquin, Libre de le dire au travail, je le recommande vraiment avec beaucoup de force. Je pense qu'on a besoin d'être libéré des interdits qui sont dans nos têtes, souvent plus qu'ils sont dans les lois. La liberté d'expression, la liberté de conscience, comme Nancy nous le rappelle et nous le dit, ce sont des droits fondamentaux. Et ces droits ne peuvent être limités que pour de très bonnes raisons. Ordre public, respect de la liberté de l'autre, déontologie de votre situation d'emploi. Si vous êtes payé pour programmer un ordinateur et au lieu de passer ces 8 heures du travail à programmer l'ordinateur, vous partagez l'évangile, votre employeur peut vous virer. Mais n'oublions pas que la liberté d'expression, la liberté de conscience sont des libertés fondamentales. Et c'est protégé en France par la loi. Et ceux qui veulent nous empêcher de parler, c'est à eux de prouver que nous avons tort et qu'il y a une force, une bonne raison, je dirais presque un cas de force majeure, qui nous empêche de parler. Pas le contraire, c'est pas à nous de prouver qu'on a la liberté de le dire, c'est le contraire. C'est ceux qui veulent nous empêcher de parler de notre conviction concernant Jésus-Christ qui doivent légalement démontrer qu'il y a une bonne raison pour nous empêcher de parler, chers amis. Nous devons vivre cette liberté. La loi française nous défend. Une priorité absolue, une prière assurée, versets 23 à 31, verset 24. « Maître, tu es le Dieu qui a créé le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, et c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi cette agitation, et ainsi de suite, le psaume 2, pourquoi tout ça, etc. Verset 28, « Ils ont accompli tout ce que ta main et ta volonté avaient décidé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Les apôtres sont face à une opposition violente, la prison, les menaces, et ils annoncent que Jésus est l'accomplissement du psaume 2, le roi choisi, mis à part, celui devant qui Dieu a placé les rois de la terre, celui qui, malgré cette ligue des rois de la terre contre lui, il va rire de l'opposition parce que c'est rien par rapport à lui. Pilate et Hérode ne font qu'accomplir ce que Dieu a décidé d'avance. Les apôtres ont prié un roi souverain, avec assurance. Cette prière est assurée parce qu'ils savent que leur Dieu est souverain. Et donc ils disent, c'est à toi d'agir puissamment, Seigneur. C'est à toi de nous donner cette force, ce courage. C'est à toi de faire des prodiges, des guérisons, des miracles. Et Dieu répond à leur prière. Une prière assurée par la conviction d'un Dieu souverain. Chers amis, si Dieu n'est pas souverain, on ne peut pas prier. Si les gens vous disent, ah, la souveraineté de Dieu et la prière, comment est-ce qu'on va conjuguer ça? En fait, on ne peut pas prier sans que Dieu soit souverain. Parce que ça sert à quoi de demander à quelqu'un qui n'a pas la puissance d'accomplir sa volonté? Autant prier Édouard. Ça ne sert à rien. Priez Dieu, les amis. C'est lui qui est souverain. La prière chrétienne repose sur la souveraineté de Dieu. Ce n'est pas une contradiction. C'est obligatoire que Dieu soit souverain, sinon ça ne sert à rien. Et les apôtres savaient que Dieu était puissant et souverain. Ils avaient vu Jésus prier le Dieu souverain. Ils avaient vu Jésus prendre du temps régulièrement pour se mettre à part, tôt le matin ou la nuit ou ainsi de suite, d'aller prier ce Dieu puissant et souverain. Et eux aussi, ayant appris la prière au pied du Maître, ont prié avec assurance. À mon avis, Actes chapitre 4 fait partie des moments où Dieu, dans sa puissance, accomplit les réponses. Il répond aux prières, en partie, par exemple, de Jésus qu'on a dans Jean 17. « Voici le peuple de Dieu qui témoigne, qui se fait mettre en prison, qui témoigne, qui se fait libérer, qui témoigne, qui prie avec assurance, qui persévère. » Jésus a prié pour ses apôtres. Jésus a montré à ses apôtres ce qu'est une vie de prière. Et eux l'ont pratiqué à sa suite. Au XVIe siècle, un certain William Tyndale habitait au Royaume-Uni. Il était linguiste, un étudiant érudit et brillant. Et il avait cette conviction intime que le monde avait besoin de la parole de Dieu. Que c'était un scandale que la Bible soit en latin, alors que le peuple parlait anglais, français, ainsi de suite. Et donc, il a appris le grec et l'hébreu, et en quelques années, il a traduit tout le Nouveau Testament, et il a traduit des sections assez conséquentes de l'Ancien Testament. Mais c'était dangereux de traduire la Bible en Europe en 1530. Cela suscitait l'opposition et la menace d'hommes puissants. Il se cachait, il vivait caché parce qu'il était menacé de mort, mais il a été trahi, et très probablement c'est sous la direction de Thomas More, Saint Thomas More selon l'Église catholique, qu'il a été capturé, étranglé et brûlé au bûcher. C'était chez nos amis belges à Vilvoorde, à côté de Bruxelles. Lorsque Tyndale était attaché au bûcher, nous ont rapporté ses dernières paroles comme étant celles-ci. « Seigneur Dieu, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » Quand il a dit cela, ce à quoi il faisait référence, c'était que le roi permette la diffusion d'une Bible en anglais. C'était ça son grand fardeau, c'était ça son projet, c'était à cause de cela qu'il s'était fait arrêter et puis tuer, c'était qu'il voulait traduire et puis que la Bible soit librement répandue, cela dépendait de l'autorité du roi. « Seigneur Dieu, ouvre les yeux du roi d'Angleterre. » 1536. Et en 1538, Henri VIII a accepté le projet porté par d'autres à ce moment-là, mais c'était le projet de Tyndale de ce qui a été appelé par la suite la Grande Bible, la première Bible traduite et produite en anglais pour l'Angleterre. Ça a été édité et diffusé en 1539. Et d'ailleurs, la traduction utilisée était presque entièrement celle de Tyndale. Ça a pris 2-3 ans pour que Dieu réponde à la prière. Mais quand Tyndale est mort, il ne le savait pas, en tout cas, sauf si le Seigneur l'a révélé dans ses dernières secondes. Mais probablement, il n'avait aucune idée quand et comment Dieu allait répondre à cette prière. Mais le Dieu souverain a entendu et a répondu. Chers amis, aujourd'hui, dans l'Association Baptiste, quel sera le signe de notre compréhension et de l'Évangile et du caractère de Dieu? Ça sera nos prières. Quel sera le signe que nous avons saisi l'urgence nationale pour la France et internationale pour le monde de proclamer l'Évangile de Jésus-Christ? Ça sera nos prières. Une prière assurée et enfin une solidarité concrète. On part ici à la fin du chapitre 4 de ce partage généreux, de cet engagement les uns pour les autres, de ce fruit de l'Évangile. Verset 32, la foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. En Jésus-Christ, il y a une unité, chers amis. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais il mettait tout en commun. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Bien sûr, ses biens lui appartenaient en propre. Le droit de la propriété restait. Mais on ne le disait pas. On vivait différemment. On prenait ce qu'on avait pour servir les autres. Ce n'était pas un partage légal, mais un partage de cœur. Ce qui est à moi est à toi si tu en as besoin. Comment on vit ça aujourd'hui? Alors, ce n'est pas forcément simple. Je sais que dans nos églises, vivre la solidarité concrète, c'est pas évident. Mais nous essayons de le vivre. Et au niveau de l'Association Baptiste, nous le vivons un peu. Cherchons à le vivre plus et mieux, cette solidarité concrète, réelle. Nous vivons à une autre époque par rapport à il y a 2000 ans. Personne ne meurt de faim en France pour une variété de raisons. Mais est-ce qu'on est prêt à ce que la libéralité, la générosité soient radicales comme cela a été au premier siècle? Est-ce qu'on est prêt à pas simplement donner une petite partie de mon surplus à l'Église, mais une part conséquente de ce que j'ai, une part qui, au final, me coûte? Les premiers chrétiens concrétisaient leur amour fraternel par une générosité extraordinaire. Et que Dieu nous donne d'avoir une même vision et compréhension de la générosité de Dieu en Christ, qui nourrit une saine et une heureuse générosité, une solidarité concrète au sein de nos églises et au sein de notre association. Que Dieu nous donne la joie de donner. Que Dieu nous donne la joie de la solidarité. C'est un privilège énorme. On a le privilège d'avoir des structures comme Taradi au Liban ou comme nos liens historiques avec l'Église baptiste au Madagascar qui facilitent cette générosité. Que Dieu nous donne de vivre la solidarité concrète. Où et quand? J'aimerais terminer avec deux questions. Croit-on en Jésus, l'unique sauveur? Prie-t-on le Dieu souverain? Un seul est mort pour vos fautes, chers amis. Un seul. Si c'était possible, d'une autre manière, d'être réconcilié avec Dieu, d'être pardonné, d'être sauvé, la croix n'a plus de sens. Si c'était possible en étant quelqu'un de bien, ou par une vague miséricorde divine indéfinie, que les gens soient sauvés, la croix n'a aucun sens. Pourquoi Dieu aurait payé avec ce qu'il avait de plus cher si ce n'était pas nécessaire? Si on pouvait être sauvé en suivant des bons conseils philosophiques ou religieux, la mort de Jésus n'a aucun sens. Et cette vérité radicale suscite une réponse radicale de la part de ceux qui le comprennent, une réponse radicale de la part de ceux qui ont été saisis par Jésus-Christ et qui se mettent à l'œuvre avec cette priorité absolue, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, annoncer coûte que coûte le message de la vie. Est-ce qu'on serait prêt à faire de la prison si on perdait le droit de parler librement de Jésus-Christ? Est-ce qu'on serait prêt à soutenir nos frères et sœurs, à peut-être nous-mêmes aller au Maroc pour établir un droit dans ce pays-là à l'annonce de l'Évangile? Croit-on que Jésus est l'unique sauveur? Lorsqu'un chrétien est saisi par la vérité de l'Évangile, il devient un témoin. Lorsque ce chrétien, ce témoin, fait partie d'un corps, d'une église locale, eh bien, il devient un témoin puissant. Parce que si vous croyez en Jésus, et vos collègues vous connaissent un peu, par exemple, ils peuvent se dire, mon ami Mathieu, Sylvie, c'est vraiment quelqu'un de sympa, peut-être ça a quelque chose à voir avec sa foi, mais peut-être c'est juste quelqu'un de sympa. Puis peut-être c'est quelqu'un d'un peu bizarre ou je ne sais pas quoi. Si ces personnes-là ont l'occasion de voir d'autres qui sont un peu fous, un peu sympas, un peu bizarres comme vous, là ils doivent s'interroger. Là où il y a un individu et une communauté visible et crédible, c'est ce que certains ont appelé la dernière apologétique. On a vu ça récemment avec deux jeunes hommes qui sont venus à l'Église Éterne. Tous les deux, indépendamment, ont rencontré pendant leurs études des chrétiens, des chrétiennes en l'occurrence, et avec qui ils ont parlé de l'Évangile. Ça a fait réfléchir, mais pas plus que ça. Jusqu'à ce qu'ils aient eu l'occasion, ce qu'ils aient eu le courage de venir un dimanche voir ce qu'est l'Église. Jérémy, un des deux, m'a dit que la première fois qu'il est venu, qu'il tremblait, il avait tellement peur. Il ne savait pas ce qui lui attendait. Il a grandi dans une famille athée, il n'avait jamais été dans une église avant. Et il était tellement soulagé, je me rappelle de la première fois qu'il était venu, à la fin on a discuté un peu, et il était radieux parce qu'en fait ça s'est bien passé, on ne lui a rien demandé, il était détendu, heureux. Tu vois, quand votre attente c'est on va, je sais pas, me torturer, et au final, ben, c'était sympa, j'ai passé une heure, on a chanté. Il était relâché, mais ça a pris quelques mois après, pour lui et pour Simon, un autre ami. Cette conjugaison entre un témoignage individuel et une église visible, où d'autres croient la même chose et cherchent à le vivre imparfaitement, a été puissant. Et pour Simon et Jérémie, au fil des mois, c'est devenu une évidence. Moi aussi, je veux suivre Jésus. Parce que quelqu'un m'en a parlé, et puis j'ai vu des personnes ensemble qui cherchent à vivre l'Évangile. Croit-on en Jésus l'unique Sauveur? Prie-t-on le Dieu souverain? Parce qu'il est souverain, on peut et on doit le prier. Et je me réjouis de voir que depuis pas loin d'un siècle maintenant, Dieu répond aux prières des frères, des sœurs, des églises de la Sainte Baptiste. Chers amis, prions le Dieu souverain. Et surtout, prions qu'il nous donne cette assurance, cette liberté dans l'esprit de parler là, maintenant, demain, là-bas, de son Sauveur. Prions avec assurance que Dieu nous donne l'assurance. Prions avec assurance que Dieu ouvre les portes et les occasions. Ça prend des années. Je racontais l'histoire hier d'une autre amie de l'Église, Véronique, entre la première conversation de l'Évangile, autour de l'Évangile sur un banc au parc et au moment où elle est venue un dimanche voir ce qu'on fait ensemble dimanche matin, il y a eu 5 ans. Que Dieu nous apprenne la persévérance dans la prière et dans le témoignage. J'ai lu récemment une histoire concernant Alexandre le Grand, l'empereur dans l'Antiquité, 300 ans avant Jésus-Christ. Parmi les hommes de sa cour, on dit qu'il y avait un philosophe, un homme brillant, mais sans beaucoup de ressources financières. Et un jour, ce philosophe a dit à l'empereur, qui aimait bien ses conseils, qui profitait de sa sagesse, qu'il avait besoin de soutien, qu'il n'avait pas grand-chose et que ça lui serait utile que l'empereur subventionne un peu pour qu'il puisse vivre. Et l'empereur lui a dit, mais bien sûr, allez voir mon trésorier et demandez-lui ce dont vous avez besoin. Et le philosophe est allé voir le trésorier. Il a demandé au trésorier de lui verser l'équivalent d'environ 60 000 euros. Le trésorier, lui, c'est un peu, oui, je te crois quand tu me dis, l'empereur a dit, mais je vais aller vérifier, hein, parce que si c'était 60 euros, ça aurait été une chose, 60 000 euros, on va voir. Donc le trésorier va voir l'empereur. Il dit, monsieur le philosophe m'a dit ainsi. Et Alexandre, l'empereur, a répondu au trésorier, payez cette somme immédiatement. Le philosophe me rend un honneur singulier. Par la grandeur de sa requête, il montre qu'il a compris et ma richesse et ma générosité. Chers amis, qui est le Dieu que nous prions ? La Bible nous dit que notre Dieu possède le bétail sur 1000 collines. Il ne manque pas de richesse. La Bible nous annonce un Dieu qui ne manque pas de générosité, qui est infiniment plus riche et infiniment plus généreux qu'Alexandre le Grand. À qui adressons-nous nos prières ? Est-ce que nous prions le Dieu souverain ? Nos prières révèlent notre vision de Dieu. Nos prières révèlent notre compréhension de notre Dieu. Et les apôtres, dans Actes chapitre 4, prient un Dieu souverain, celui qui a tout créé, celui qui, lui, a décidé, a prévu d'avance, par sa main et sa volonté, la mort et la résurrection de Jésus, ainsi que même l'arrestation et la libération des apôtres. Les apôtres, il y a 2000 ans, ont prié pour l'assurance et pour des prodiges. Ils ont prié en tant qu'hommes formés par le maître de la prière, Jésus lui-même. Et que Dieu nous donne de prier ainsi pour l'assurance qui nous manque, afin que parmi nos amis, voisins, collègues, cousins, et par cousins je veux dire toute notre famille étendue, nous soyons des témoins joyeux de la vie en Jésus-Christ. Croit-on en Jésus l'unique Sauveur ? Prie-t-on le Dieu souverain ? Voilà ce qui déterminera où et quand nous parlerons de Jésus et de sa bonne nouvelle. Prions ensemble. Et maintenant, Seigneur notre Dieu, sois attentif à notre situation, à nos faiblesses, à nos oppositions, à nos incohérences. Seigneur, donne à tes enfants d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et nous te prions encore, en France, en 2017, que tu déploies ta puissance. Nous te prions pour des guérisons, des signes miraculeux, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Nous te prions pour des conversions et de la croissance. Nous te prions pour des multiplications. Nous te prions que tu nous donnes de contribuer à l'avancement vers ce but d'une église pour 10 000. Seigneur, déploie ta puissance. Envoie des ouvriers dans ta moisson. Fortifie et bénis ton peuple. C'est notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen.